à l'idée que je me fais de la justice.
14h, 15h, Café Crime sur Europe 1. Jacques Pradel.
Bonjour à tous, bienvenue. Le standard de Café Crime à votre disposition dès maintenant au 01 42 32 15 15 pour les questions et réactions par téléphone ou encore l'internet sur europe1.fr car nous lisons également, et on y répond, les courriels. Une émission spéciale de Café Crime aujourd'hui, je le disais il y a un petit instant à Jean-Marc Morandini, consacrée à une héroïne oubliée des services secrets britanniques et de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle s'appelait Virginia Hall. Elle a été la première femme agent secret parachutée sur la France occupée pour recueillir des informations et pour prendre contact avec les premiers réseaux de la résistance intérieure. L'invité de Café Crime pour raconter l'existence aventureuse de cette femme au charme troublant et au caractère rebelle, c'est le journaliste d'investigation Vincent Nouzille, auteur du livre « L'espionne, Virginia Hall, une Américaine dans la guerre ». C'est un livre qui est paru aux éditions Fayard. Alors avant de revenir en détail avec Vincent Nouzille sur le destin vraiment hors du commun de cette femme qui n'a jamais parlé à personne de ses exploits jusqu'au jour de sa mort, je voudrais vous raconter en quelques mots les grandes lignes de son histoire en commençant par l'accident au cours duquel elle a perdu une jambe. Ce jour-là, elle est vraiment devenue la femme qui boite. Et c'est ainsi que Klaus Barbie l'avait d'ailleurs appelée dans un message retrouvé dans les archives de la Gestapo de Lyon. Klaus Barbie avait écrit ceci, je le cite, « La femme qui boite est l'un des agents alliés les plus dangereux de France. Il faut la trouver et la détruire. »
Café Crime.
Bien avant le déclenchement du second conflit mondial, Virginia Hall était une jeune femme vive, souriante, au charme ravageur. Après un long voyage en Europe et des études effectuées à l'université de Vienne en Autriche, elle était finalement rentrée à Baltimore aux États-Unis en juillet 1929, quelques mois avant le déclenchement de la grande crise qui allait ruiner sa famille et provoquer la mort de son père 2 ans plus tard, son père victime d'une crise cardiaque en pleine rue le 22 janvier 1931. Il avait 59 ans. Un héritage en miettes, une famille en pleurs, une ferme familiale dévastée par les conséquences du jeudi noir, Virginia décide alors de s'expatrier à nouveau. Mais cette fois, elle sait qu'elle ne pourra pas compter sur les subsides d'une famille aisée. Elle rêvait depuis toujours d'une carrière diplomatique, alors elle avait passé avec succès un concours d'entrée au département d'État, le ministère américain des Affaires étrangères, et le 29 juin 1931, elle apprend qu'elle est engagée officiellement et qu'elle va repartir pour l'Europe. Virginia fait ses premières armes à l'ambassade américaine de Varsovie en qualité de secrétaire de la mission diplomatique américaine. Elle s'occupe du courrier, des visas diplomatiques, des télégrammes secrets à coder et à décoder, des rapports à envoyer à Washington. Et puis en 1933, elle est mutée au consulat américain du port d'Izmir en Turquie, où elle arrive à la fin du mois de mars 1933 après avoir traversé toute l'Europe centrale en train. Elle a 27 ans. Sur place, le travail au consulat n'étant pas harassant, la jeune femme s'occupe de ses loisirs. Elle joue au golf, au tennis, elle monte à cheval et elle sillonne la région au cours de longues randonnées. Mais elle est aussi passionnée de chasse. Et le vendredi 8 décembre de cette année-là, jour de fermeture des bureaux en pays musulman, elle part avec plusieurs amis pour une partie de chasse à quelques kilomètres d'Izmir. Elle grimpe le long des coteaux avec son fusil chargé en bandoulière, canon vers le bas, s'agrippant aux rochers dans les passages délicats, et puis soudain, en pleine ascension, son pied dérape, le fusil glisse de son épaule, elle tente de le rattraper. Par mégarde, elle appuie sur la détente, le coup part et la balle déchiquette son pied gauche. Quelques semaines plus tard, la plaie s'infecte, la gangrène menace. Elle est conduite en urgence à l'hôpital américain d'Istanbul. Les chirurgiens n'ont pas d'autre solution que de l'amputer juste au-dessous du genou pour préserver sa vie. Et désormais, elle devra vivre avec une jambe de bois. Après 6 mois de convalescence aux États-Unis, Virginia sera mutée, toujours comme secrétaire, au consulat américain de Venise cette fois. Grâce à sa force de caractère, elle a fait une rééducation exemplaire. Elle claudique légèrement, surtout quand elle est fatiguée, mais personne dans son entourage ne peut soupçonner que cette belle jeune femme dissimule une prothèse sous ses jupes toujours longues et amples. Elle profite de son séjour à Venise pour préparer le concours de diplomate, son rêve d'enfant. En 1936, elle se sent prête et elle envoie sa lettre officielle de candidature au département d'État. Mais quelques semaines plus tard, la sanction tombe, définitive. Elle ne sera jamais diplomate. C'est le consul américain de Venise en personne qui lui apprend la nouvelle et qui lui lit la lettre qu'il vient de recevoir de son administration en provenance de Washington. Cette lettre dit à peu près ceci, je cite, « Les règles qui s'imposent pour les épreuves physiques d'entrée dans le corps diplomatique prévoient que l'amputation d'un membre à l'exception des doigts ou des orteils, sont un motif de rejet. Nous regrettons de ne pouvoir approuver sa demande. Vous devrez informer Mademoiselle Hall de cette décision qui n'a rien à voir, bien sûr, avec des considérations sur son travail comme secrétaire dans nos services où elle a toujours donné satisfaction, etc., etc. Virginia restera donc secrétaire. Elle sait que l'entrée dans le corps diplomatique lui est désormais impossible.
Café Crime.
Pendant les deux ans qui suivent, la jeune femme sera employée au consulat américain de Tallinn, la capitale de l'Estonie, au bord de la mer Noire. C'est là qu'elle vivra la montée des périls et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, le 3 septembre 1939. Virginia, entre-temps, s'est aussi improvisée journaliste pour une feuille de Baltimore. Elle envoie des articles qui sont remarqués pour la qualité de son style et surtout pour la précision de ses informations. Le 25 octobre 1939, elle n'en peut plus, elle démissionne. Et elle décide d'embarquer sur un bateau qui l'amène à Londres, où elle va tenter, sans succès, de se faire engager dans les armées qui vont combattre le nazisme. Elle se porte donc volontaire devant une branche militaire de l'armée anglaise où les femmes sont admises. Refus, à cause de sa nationalité américaine, on ne peut pas l'engager. Alors, elle décide de partir pour Paris, où elle se présente finalement à un bureau de recrutement de l'armée française. À cette époque, c'est la drôle de guerre. Elle est finalement engagée par le service de santé des armées et envoyée sur la ligne Maginot, près de Metz, comme conductrice d'ambulance. Elle a une jambe de bois, mais elle a surtout un permis de conduire. Le 10 mai 40, c'est l'assaut de l'armée allemande contre la France. La Belgique et les Ardennes sont attaquées. C'est la débâcle. Les Allemands sont à Paris. La France est coupée en deux. Le maréchal Pétain prend le pouvoir. Fin juillet, Virginia est démobilisée. Alors elle décide aussitôt de rejoindre Londres en passant par l'Espagne. Et le 25 août 1940, elle prend le train à Paris, destination Madrid. Au cours de ce long voyage, elle prend note de tout ce qu'elle voit dans son petit carnet de journaliste. Et dans la gare d'Irun, à la frontière franco-espagnole, de grands portraits d'Hitler, du général Franco et de Benito Mussolini sont affichés. Cette image, symbole de l'ordre nouveau qui s'est imposé en quelques semaines en Europe, cette image la terrifie. Elle fera tout, écrit-elle dans son carnet, dès son arrivée à Londres, pour aller se battre contre les nazis. Au cours de son séjour espagnol, où elle tente de trouver un moyen de rejoindre Lisbonne au Portugal pour attraper un bateau à destination de l'Angleterre, Virginia fera une rencontre déterminante, celle d'un Britannique placide au flegme rassurant. Il se nomme George Bellows. Il se présente comme un homme d'affaires alors qu'il travaille en réalité pour les services secrets britanniques. Et le profil de cette jeune américaine de 34 ans, ancienne secrétaire d'ambassade, journaliste à l'occasion, qui lui raconte avec tellement de précision son périple à travers la France, l'intéresse. Et il lui conseille, une fois arrivé à Londres, de prendre contact de sa part avec quelques-uns de ses amis, dont il lui donne les coordonnées. Arrivé à Londres en plein blitz, Virginia appellera quelque temps plus tard l'un des amis de Bellows, Nicolas Boddington. Lui, il exerce officiellement le métier de journaliste, mais en réalité, il est l'un des deux principaux responsables de la branche française du SOE, les services secrets de Sa Gracieuse Majesté. Séduit par l'assurance de cette grande femme brune qui lui dit vouloir retourner en France le plus vite possible pour des missions de secours, Il fait un rapport à son chef direct et il suggère dans ce rapport d'engager Virginia, qui parle couramment allemand, français et italien, et qui pourrait prendre comme couverture celle d'envoyé spécial d'un grand journal américain en Europe. Son passeport américain la protégera, il lui permettrait de se déplacer un peu partout sans inquiéter les Allemands, puisque les États-Unis à cette époque-là ne sont pas en guerre avec le Reich, et la représentation diplomatique américaine entretient de bonnes relations avec le gouvernement de Pétain. C'est ainsi que Virginia sera rapidement formée à la clandestinité et au maniement des armes et au maniement des postes radio par les instructeurs des services secrets anglais. Elle sera la première femme agent secret envoyée en France pour une longue mission de recueil d'informations et elle sera également chargée de créer un réseau clandestin pour prendre contact avec la résistance intérieure française. Le samedi 23 août 1941, elle quitte l'Angleterre en avion à destination de Lisbonne, où elle se débrouillera pour rejoindre Vichy par ses propres moyens. En la voyant décoller, le moins qu'on puisse dire, c'est que ses supérieurs directs ne donnent pas cher de sa peau.
Jacques Pradel sur Europe 1, Café Crime.
01 42 32 15 15 et europe1.fr.
Bonjour Vincent Nouzy.
Bonjour.
Et merci de venir nous raconter l'histoire de cette femme, de faire le portrait de cette célèbre oubliée finalement. Vous êtes tombé sur l'histoire de cette femme, je crois, en faisant des recherches dans des archives américaines, mais pour un tout autre sujet.
Oui, je travaillais sur l'histoire de la French Connection et notamment des parrains corses et voilà, je cherchais des documents sur la période de la guerre et les liens entre les services secrets américain, qu'on appelle l'OSS, ancêtre de la CIA, et puis et le milieu français. Vous savez, il y a eu en Italie des liens comme ça entre l'armée américaine et des gens de Cosa Nostra en Italie. Donc, je cherchais à savoir notamment si à Marseille, avant le débarquement de Provence, il y avait eu des liens. Bon, ouais. Et je suis tombé sur une brochure qui raconte l'histoire de la CIA, dans laquelle il y avait une photo. Vous savez, ces petites brochures un peu qu'on voit sur des tablettes aux Archives nationales américaines près de Washington. Mm-hmm. Et puis j'ai commencé à regarder, puis je me suis renseigné un petit peu sur cette femme. En fait, la photo que j'ai vue m'a absolument troublé. Parce que j'ai trouvé très belle femme,
très, très belle.
Des yeux pétillants. On ne se doute absolument pas qu'elle est unijambiste. Et alors l'histoire racontée, bon, c'était un peu la belle histoire. On racontait la belle histoire de cette femme courageuse, etc., etc. Ouais. J'ai cherché à savoir s'il y avait eu des choses décrites très précises sur elle et documentées. Et je me suis rendu compte qu'il y avait rien. Ouais. Donc j'ai commencé à chercher dans les archives américaines. Donc puisque vous le verrez, elle a travaillé après, effectivement, pour les services américains au moment du débarquement. Ouais. Et puis, j'ai commencé à trouver des choses. Et puis, je me suis dit, bon, il faut absolument que je raconte cette histoire. Et plus je me suis plongé dans son histoire, et plus j'ai découvert une femme absolument exceptionnelle, extraordinaire, qui, en fait, est plutôt un héros, disons, de second rang, a priori, dans la guerre. C'est pas Churchill, c'est pas Jean Moulin. Mais, en fait, elle est là. Elle est là au bon moment. Elle est la première sur plein de choses. Ouais. Elle innove. Elle a un courage absolument colossale, elle échappe à tout, elle échappe aux arrestations, elle réussit à monter et à s'activer en France, dans la France occupée pendant des mois et des mois, et Klaus Barbie donnerait cher pour effectivement
pour avoir
l'attraper.
Sa peau, effectivement, il ne l'attrapera jamais.
Ouais. C'est pour ça d'ailleurs peut-être qu'elle n'a jamais été bavarde.
Ben oui, bien sûr, oui. Elle dit, je ne sais pas si c'est apocryphe, mais vous le citez en tout cas dans votre livre, que quand à la fin de sa vie, quoi, elle disait, si on lui disait, mais qu'est-ce que tu as fait pendant la guerre, elle disait, je n'ai rien à dire là-dessus. J'ai trop d'amis qui sont morts parce qu'ils avaient trop parlé.
Absolument.
Alors, on se retrouve dans un petit instant, tout de suite après une première pause, pour vous raconter la véritable histoire de Virginia Hall.
Jacques Pradel sur Europe 1, Café Crime.
01 42 32 15 15 et europe1.fr.
Virginia Hall espionne, le journaliste écrivain Vincent Nouzil et Jacques Pradel nous racontent l'histoire.
Et oui, parce que beaucoup de gens l'ont connue sous le nom de Germaine, plus tard. Elle a collectionné évidemment les pseudos, comme tout bon agent secret qui se respecte.
Oui, d'ailleurs, personne la connaissait sous son vrai nom, sauf quand elle arrive en France à Vichy, avec son comme couverture le fait d'être journaliste américaine pour le New York Post, donc un des grands quotidiens de américains, elle vient sous son vrai nom. C'est presque le contraire des autres espions qui sont envoyés en France clandestinement, parachutés. Ouais. Elle vient en train, elle arrive, elle va se faire enregistrer à la gendarmerie de Vichy, au gouvernement, et elle pénètre comme ça les milieux politiques gouvernementaux à Vichy. desquels elle va effectivement récupérer énormément de renseignements qu'elle va pouvoir expédier à Londres.
Et alors, elle écrit des, elle est pas journaliste du tout,
ah oui, c'est improvisé,
mais elle écrit des papiers formidables. Elle titre son premier papier, je crois, quand elle est arrivée à Vichy, il y a des bureaux même dans les salles de bain.
Ah oui, parce qu'à Vichy,
c'est la surpopulation.
Absolument, tout le monde s'était évidemment replié, et donc tous les hôtels étaient pris par les administrations, les fonctionnaires. Et donc, elle a une capacité.
Sont dans des hôtels 3 étoiles,
etc. Et elle fait des articles absolument stupéfiants sur la vie quotidienne.
Ouais.
Dans la France de la zone libre à l'époque, mais dans laquelle il y a du rationnement alimentaire, les gens ne fument plus des cigarettes, il n'y a plus de tabac. Donc ils fument des feuilles. Elle raconte ça de manière absolument très cocasse, avec une pointe d'humour. Ouais. Alors, ce sont des articles de couverture, donc elle ne doit pas avoir des articles trop politiques.
Oui.
Donc elle fait des articles, des reportages, elle raconte des trajets en train qui durent des heures, les routes qui sont chaotiques, etc. Ouais. Et puis, en fait, elle recueille des renseignements.
Bien sûr.
Et elle va les envoyer par le biais soit des câbles, donc en tant que journaliste expédié à New York à son journal, soit alors elle se met en contact à Lyon, puisque Vichy n'est pas très loin de Lyon, et finalement elle va s'installer à Lyon comme sa base, sa base de travail, on va dire. Elle va travailler là avec le consulat américain qui est donc installé à Lyon et
qui va
servir de boîte aux lettres en quelque sorte et qui va faire passer notamment des documents via la Suisse à Londres.
Voilà. Alors elle a été formée très vite, hein. C'est ça qui est fou, c'est que quand cette femme s'est présentée à Londres, évidemment, elle a attiré l'attention du SOE. Alors, elle a continué, on pouvait pas tout raconter là tout à l'heure, mais elle a continué à travailler un peu comme secrétaire à l'ambassade américaine. Et puis, bon, et les Anglais ont tout de suite compris tout l'intérêt qu'il y avait derrière ce personnage, quoi.
C'est ça qui est assez fascinant. D'abord, il faut bien dire qu'on est en 1900, fin de 40, oui. Début de 41, que l'Europe est complètement à genoux et que Londres ne sait pas quoi faire pour tenter de commencer à reprendre pied et avoir des contacts avec une quelconque résistance. On ne sait même pas s'il y a de la résistance. Ouais. Jean Moulin n'est pas encore arrivé à Londres pour délivrer quelques messages.
Mm-hmm.
Donc on est dans un état où il n'y a rien du tout.
Voilà.
Et ils choisissent cette femme pour être leur première envoyée permanente en France. C'est absolument incroyable. Voilà. C'est d'autant plus incroyable que les règlements de la guerre empêchent toute femme d'aller au combat. C'est absolument proscrit par toutes les règles.
Elle a déjà eu suffisamment de balles un an avant
Le ministère de la guerre ne veut pas que les services secrets envoient de femmes.
Mm-hmm.
Et en l'occurrence, le SOE va violer la règle dictée et envoyer cette femme. En août 41, il faut savoir que la deuxième femme qui sera envoyée en France, elle n'arrive qu'un an après, donc mi-42. Donc elle, c'est vraiment une pionnière.
C'est une pionnière. Alors elle doit repérer des endroits pour des parachutages. On lui fait passer de l'argent et des sommes considérables pour pouvoir aider si elle rencontre finalement des réseaux clandestins de résistants français, au moins que de les aider. Elle a décrit tellement bien aussi on fait des faux papiers grâce à des indications qu'elle donne, des faux tickets de rationnement, enfin bon, et elle a alors elle n'a pas tout de suite un poste de radio clandestin, parce que son radio n'arrive pas, je crois.
C'est ça, tout à fait. Le premier problème de cette femme, qui est seule, d'abord à Vichy, puis à Lyon, c'est d'abord de trouver quelques relais à Lyon,
bien sûr,
et puis ensuite de pouvoir communiquer avec Londres.
Ouais,
donc, pour avoir des contacts dans la résistance, à Lyon, évidemment, on ne fait pas toc-toc, bonjour, je suis des services secrets britanniques.
Bien sûr.
Donc, elle va trouver des personnages, d'ailleurs, qui sont à Lyon et qui sont absolument exceptionnels.
Alors, un médecin, tenancier de bordel, on peut
exactement
parler de ces deux-là.
J'aurais pu les inventer, mais non, c'est vrai. C'est un grand blessé britannique, un soldat qui doit être rapatrié à Londres, qui la met en contact avec un docteur, qui est gynécologue, qui vous savez, qui fait la tournée des maisons closes, pour vérifier si les demoiselles
sont...
Et en fait, cet homme est résistant, et recueille énormément de renseignements, ce docteur Jean Rousset, qui est à Lyon, et qui a une espèce de petite clinique, place Antonin Poncet à Lyon. Et puis elle va, grâce à lui, elle va rentrer en contact avec une tenancière donc de maison close, une femme pétulante, magnifique, qui rend des services, qui planque des gens, qui planque des aviateurs,
qui reçoit des Allemands,
qui reçoit des Allemands, et dans la cave il y a
des Juifs qui sont
des réfugiés qui descendent, vous savez, de l'Europe du Nord, et elle se met au service, et donc ces maisons closes vont servir un petit peu peu de cash pour voilà. Donc elle a le médecin, elle a les cash.
Et c'est là qu'elle s'invente des pseudos. Il faut bien, c'est là.
Voilà. En fait, donc là, elle se présente pas là auprès de ses résistants comme Virginia Roll. Elle se présente sous le nom de Brigitte ou de Germaine ou de Marie ou de Maë. Ouais. Donc il y a plein de gens qui croient à cette femme qui a un accent. En parlant français, à couper au couteau, qui a une jambe de bois, donc il est claudique, donc éminemment repérable.
Très repérable.
Très repérable. Et elle navigue autour de ça, elle a acheté, en fait, des complicités dans la police. Vraiment. Donc, elle fait sortir des gens de la prison de Montluc à Lyon. Elle organise des réseaux avec, évidemment, d'autres résistants pour, vous savez, ces fameuses filières d'évasion qui vont aller via l'Espagne, traversant les Pyrénées, dont elle se servira elle-même.
Ah oui, parce qu'un jour, ça, on y viendra tout à l'heure, malgré sa jambe de bois, elle va traverser les Pyrénées à pied à partir de Perpignan. Ça, c'est une odyssée absolument incroyable. Et elle avait certainement une force de caractère. C'est quand même quelqu'un.
D'abord, elle avait la santé.
Alors, on se retrouve dans un instant, après un peu de musique, et on va continuer à vous raconter à la fois ce premier grand épisode de Virginia Hall, donc au cœur de la résistance en France, dans cette année 40-41, et puis ensuite l'invasion de la zone libre, et elle va devoir s'en aller, donc c'est là où elle passe les Pyrénées, et puis elle va retourner à Londres, et on va pas la parachuter, parce qu'avec sa jambe de bois c'est difficile, mais elle va quitter un jour l'Angleterre à bord d'un bateau rapide, qui va la jeter, si j'ose dire, avec un canoë, face aux côtes bretonnes, enfin c'est complètement extraordinaire, on se croirait dans un film.
Racontez pas tout.
Jacques Pradel sur Europe 1, Café Crime.
01 42 32 15 15 et europe1.fr.
Et on retrouve Vincent Nouzy, l'auteur de L'espionne Virginia Hall, une américaine dans la guerre, et Jacques Pradel.
Voilà, c'est un livre qui est paru aux éditions Fayard, qui se lit comme un roman, et vous avez bien raison, Vincent Nouzy, de l'avoir précisé il y a un instant. Vous dites, j'aurais pu inventer ces personnages, on aurait pu faire une biographie romancée. Mais à quoi bon ? Parce que la vie, cette femme, c'est tellement
la vérité.
Formidable.
En l'occurrence, le détail même historique, la couleur de ses jupes, la couleur de ses cheveux, ses maquillages, cette manière de se grimer à certains moments, tout ça est puisé dans les documents, les archives, elles soient américaines, britanniques. Ouais. Lorsqu'on parlait des rapports qu'elle écrivait, c'est vraiment des rapports qu'elle a envoyés à Londres et qui ont été conservés dans les archives pendant 60 ans. Ouais. J'ai pu y accéder seulement
après 2015.
Ça, ouais, absolument. Hein, quand,
ouais. Alors effectivement, bon, elle domine aussi sa claudication avec sa force de caractère. Elle s'est fait envoyer des bas couleur chair.
Voilà. Et puis
elle ne parle jamais de son handicap autour d'elle.
Elle n'en parle jamais, très pudique. Et peut-être d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles elle n'aura pas enfin, pendant toute cette période de vraie vie amoureuse, on va dire. Seule à la fin de la guerre, on peut en reparler. Ouais. Elle tombera amoureuse d'un soldat parachuté.
Voilà.
Mais voilà. Donc on sent une très grande pudeur chez cette femme qui est d'une beauté absolument stupéfiante, très grande force de caractère. Elle avait un charisme sur les gens énorme. D'ailleurs, il faut dire qu'à Lyon, quand elle est dans la résistance et avec ce milieu-là, dans un milieu d'hommes très masculin, elle a quand même beaucoup de mal à s'imposer. Il y a des engueulades homériques que je raconte.
Oui, elle n'est pas facile. Hein,
elle devient même très de caractère très difficile. Ouais. Mais elle veut imposer parce qu'elle connaît tout le monde. Ouais. Elle est au courant de tout.
Alors, il faut dire aussi que dans sa mission, parce qu'il ne faut pas faire d'angélisme, les anglo-saxons veulent un peu savoir ce qui se passe dans la résistance française. De Gaulle est un personnage qui les gêne, qui les agace, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait partie de sa mission aussi, peut-être, de contrôler des réseaux de résistants français. Hein.
Alors, tout à fait. D'ailleurs, c'est un des volets qui est plus complexe à décrire. C'est-à-dire qu'en fait, elle est bien envoyée par les services secrets britanniques et qui sont un peu en concurrence, un peu hostile avec ce qu'on a le BCRA, qui était donc le service de renseignement des gaullistes. Ouais. Et donc, les réseaux ne doivent pas se mélanger, et donc elle est censée ne pas du tout s'occuper des réseaux gaullistes. Et même, des fois, quand ils peuvent récupérer un peu de gens ou des agents sur place, évidemment, ils sont plutôt contents. Ouais. Et puis, il y a même des choses très importantes dans lesquelles elle est mêlée, c'est qu'elle va recueillir des renseignements, faire la connaissance des chefs des réseaux, les grands chefs des réseaux de la résistance française. Vous savez, il y en avait trois ou quatre en France. Ouais. Il y avait Combat avec Henri Freinet, il y avait Emmanuel d'Astier, des gens comme ça. Emmanuel d'Astier devient son ami. Et c'est lui qui va tenter de convaincre Londres qu'il faut les aider Et il n'est pas encore tellement convaincu, Emmanuel Dastier, que De Gaulle est le fédérateur. Et Jean Moulin n'a pas encore fédéré tout le monde. Bien donc on est dans cette phase-là. Et quelque part, il y a une concurrence entre les services londoniens, qui détestent De Gaulle, et les services gaullistes.
Alors il faut dire aussi que dans le passé, lors de son premier séjour en France, là, pendant la Drôle de Guerre, elle a rencontré une femme qui porte un nom célèbre. Vous voyez qui je veux dire ?
Gloria Picabia.
Voilà, Gloria Picabia, qu'elle va finir par retrouver, parce que Gloria Picabia fait partie d'un réseau dans lequel
c'est
il y a aussi...
C'est la fille d'un peintre, donc...
Oui, merci de préciser, le journaliste.
Fille d'un peintre célèbre, qui est une patriote, qui s'engage dans les réseaux de résistance, qui a été ambulancière avec elle, qu'elle a croisée.
Comme ça qu'elles se sont
rencontrées. Et puis elle la retrouve dans un réseau qui est plutôt sur la région parisienne.
Ouais, avec Germaine Tillon.
Avec la fameuse Germaine Tillon, qui est décédée il y a très peu temps, qui était centenaire. Ouais. Et Germaine Tillon, on se souvient beaucoup de ses écrits, notamment sur sa déportation à Ravensbrück. Ouais. Ce qu'on connaît moins, c'est son rôle dans la résistance jusqu'en juillet 42, le jour où elle est arrêtée. Et lorsqu'elle est arrêtée, Germaine Tillon, à la gare de Lyon, elle est arrêtée parce qu'elle veut transmettre à un intermédiaire, enfin un homme qui doit faire une mission vers Lyon, pour transmettre à Virginia Hall des rapports très importants sur les défenses côtières, etc. Et c'est Germaine Tillon qui va à la gare de Lyon, donne ses documents à un personnage dont on pourra dire un mot.
On va commencer à en parler.
Et ce personnage, en fait, la trahit.
C'est un traître.
Et la Gestapo arrête Germaine Tillon, elle va être déportée à Ravensbrück. Et ce personnage,
sa mère va mourir aussi.
Où sa mère va mourir. Et donc, on voit bien le rôle stratégique de Virginia Hall, qui est à Lyon, et qui recueille des renseignements venant de tous les réseaux de France, notamment Paris, Germaine Tillon, etc., et qui, pour les expédier, qu'ils soient exploités à Londres.
Alors, il faut effectivement dire un mot, on va commencer à parler de lui quand même, de cet abbé.
Cet émissaire qui fait le trajet entre la gare de Lyon, donc Paris et Lyon, pour transporter des choses, eh bien, c'est un prêtre.
Ouais.
C'est un prêtre d'origine luxembourgeoise qui rêve d'avoir une paroisse à Paris sous l'occupation. Ouais. Et pour ça, il est prêt à tout.
Ouais. À tout.
Voilà. Il s'appelle Robert Allèche.
Ouais.
Il est vicaire à la Varenne Saint-Hilaire, près de Saint-Maur. Et il cherche absolument à se faire bien voir par les Allemands.
Ouais.
Et il va être absolument retourné et exploité par les Allemands comme agent infiltré dans les réseaux de résistants. Il se fait passer pour un résistant gaulliste ou pour un résistant tout court.
Et il a pris clandestinement, il n'en parle jamais évidemment, la nationalité allemande.
Absolument.
Comme gage évidemment
de sa fidélité.
De sa fidélité au Reich. Hein,
voilà, il signe ses lettres à Hitler. Enfin bon, c'est un vrai. Il passe pour un résistant et il rencontre à Lyon Virginia Hall qui se méfie un peu de lui parce que c'est un drôle de personnage.
Ouais.
Elle ne sait pas trop, mais comme il est envoyé par des gens de confiance qui lui ont fait confiance à Paris,
Elle arrive un jour chez le fameux médecin là dont vous parliez tout à l'heure,
Rousset,
qui la contacte pour lui dire faut venir parce que là j'ai un émissaire du réseau de Paris qui est là, c'est un prêtre en soutane. Alors elle se méfie.
Ça fait
comme
plus
vous
sérieux
dites,
d'être en soutane.
Oui, voilà, parce qu'il se balade partout en soutane. Il est glacial. Il y a une photo là, mais évidemment quand on connaît la fin de l'histoire, on a tendance à le trouver glacial. Et alors cet homme-là, évidemment, il apporte d'abord des microfilms, des plans, des rapports sur l'état des forces allemandes, enfin, des choses qu'elle répercute évidemment à Londres.
Oui.
En même temps, c'est vraiment un salaud jusqu'au bout parce que il est très attiré par l'argent. Il faut dire aussi qu'il a des maîtresses parmi ses paroissiennes.
C'est un prêtre. Il a
Paris.
Quelques paroissiennes qu'il aime bien.
Le soir, il se défroque, il va à Montmartre faire la
Java,
etc. Et à chaque fois, il dit j'ai besoin d'argent pour le réseau. Il faut de l'argent.
Et donc, il prend l'argent pour lui en fait, tout simplement.
Exactement.
Alors, non seulement il prend l'argent pour lui, mais lorsqu'il donne des renseignements, lorsque Madame Tillon est arrêtée, il continue de faire ses allers-retours et là, il donne des faux renseignements à Londres.
Préparés par
les services secrets allemands qui font une espèce d'opération d'intoxication.
Un peu de vrai
pour être crédible et beaucoup de faux pour tromper Londres.
Voilà.
Et elle va être au cœur de cette manipulation des Allemands et ce curé va la menacer terriblement.
Elle s'en doutera pas, mais vous dites qu'elle doit peut-être la vie à une compétition entre l'Abwehr, donc les services secrets d'Hitler, et la Gestapo. Parce que
en novembre 42, lorsque l'armée allemande envahit la zone sud, Klaus Barbie arrive à Lyon. Il était à Dijon avant, il arrive à Lyon. Et là, ça commence à être extrêmement difficile, évidemment. Ouais. Tout le premier semestre de 1943 est terrible pour les réseaux de résistance. Ouais. Juin 43, Jean Moulin est arrêté, je vous le rappelle. Ouais. Et donc, on a bien... Il arrive, il met une pression terrible. Le but de la Gestapo, c'est tout simplement de arrêter tous les opposants au régime et donc tous les résistants, etc.
Exactement. Et le but de l'Abwehr, c'est d'intoxiquer le plus longtemps possible les Anglais par l'intermédiaire de cet agent double.
Et tenter peut-être de savoir quand aura lieu le grand débarquement qui est attendu.
On va continuer à vous parler dans un instant de cet abbé Robert Allèche, prêtre agent double, infiltré dans le réseau de Virginia Hall. Et on va vous parler aussi de son destin tragique. Finalement, il y aura une morale à l'histoire.
14h, 15h, Café Crime sur Europe 1. Jacques Pradel.
Et alors, Jacques Pradel, la
et
suite
alors, ben on va la demander à Vincent Nouzy. Je voudrais juste ajouter un petit détail pour compléter le portrait de ce prêtre, agent double, Robert Allèche. Vous parlez à un moment de son chef. Vous dites qu'il était tellement salaud que même son chef de la VER était outré par les propositions qu'il lui faisait.
Oui, il lui faisait vraiment une proposition terrible qui était de dire « Je peux aller dans les prisons, recueillir les derniers... »
Confesser les résistants
qui sont en prison. Et je vous raconterai tout ce qu'ils m'ont dit. Donc on est vraiment dans l'abjection la plus totale. Même l'Allemand qui
l'a refusé.
Il refuse ça. Il est outré d'ailleurs. Il témoignera contre lui.
Contre lui au procès.
Au procès qui sera fait après guerre.
Ouais. Alors justement. Donc d'un mot, mais ça, on va couper un peu dans la chronologie, mais. La zone libre est envahie par les Allemands. Virginia comprend très bien. Il y a un moment où elle comprend que Allèche est un agent double. Elle est terrorisée parce qu'elle sait qu'il a des informations qui peuvent mener à elle. Il faut qu'elle s'en aille. Elle va réussir, vous nous direz tout à l'heure, à s'échapper de Lyon. Et puis là, alors ça recommence. Le roman feuilleton, la traversée des Pyrénées, l'Espagne, le Portugal, retour à Londres, etc. C'est là qu'elle va revenir pour une deuxième fois en France. Cette fois-ci avec ce fameux bateau rapide qui quitte les côtes anglaises pour la mettre devant les côtes de la Bretagne. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe avec Allèche ? Allèche, il est déçu parce que il est coupé brutalement. Il revient, il essaye de retrouver le contact avec le réseau de Virginia Hall,
absolument.
Mais là, c'est fini.
Quand Virginia Hall s'en va assez soudainement de Lyon, lui, il est comme une andouille. Sauf qu'il va quand même réussir à faire arrêter tous les gens du réseau de Virginia Hall. Le docteur Rousset dont on parlait tout à l'heure, la patronne de Maison Close, et puis un certain nombre d'autres des opérateurs radio, etc. Ouais. Donc,
les fameux jumeaux.
Il y a deux frères qui sont vraiment stupéfiants, leur histoire est absolument incroyable, ils échappent à tout jusqu'à ce qu'ils se fassent arrêter par Klaus Barbie, et là ça se passe assez mal pour eux quand même. Ils sont envoyés en camp de concentration.
Ouais. Donc, l'un échappe. L'un d'entre eux va se défenestrer pour ne pas parler, enfin c'est une histoire horrible.
Et donc, on a, si vous voulez, cet abbé a presque réussi sa mission puisque l'ensemble du réseau sera arrêté après le départ de Virginia Hall, sauf qu'il n'a pas attrapé la fameuse Virginia Hall. Ouais. Et donc, alors il va être envoyé par ses patrons de l'Abwehr, donc service de contre-espionnage allemand, en Normandie, notamment pour infiltrer de nouveaux réseaux sous de nouveaux noms. Ouais. Et là, il va pareil continuer de faire ses dégâts jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'en août 44, lorsque Paris est libéré. Là, il s'enfuit et sous un faux nom, il s'en va à Bruxelles où il se fait passer pour une victime du nazisme et où il va animer un centre de réfugiés. Et là, un an plus tard... Et
il vit une paroisse à Bruxelles d'ailleurs, l'idée fixe, c'est ça, il va expliquer son cas à un évêque.
Et au bout du compte, il va se faire arrêter par les Américains à Bruxelles en août 45 et il va être remis aux autorités françaises parce que quand même il y avait eu des plaintes. La DST a un dossier sur lui. Ils se sont rendus compte que ce type avait fait d'énormes dégâts dans plein de réseaux de résistance. Ouais. Germaine Tillon, Lyon, la Normandie. Ouais. Il y a eu des centaines de gens qui ont été arrêtés et fusillés à cause de lui. Et donc, il va, au terme d'une très très longue instruction, son procès aura lieu en mai 48 et il sera condamné à mort et exécuté, fusillé. Comme un des derniers d'ailleurs, une des dernières grands procès de ce qu'on a appelé les agents de l'hôtel Lutetia, vous savez, à Paris, où l'Abwehr avait son QG. Et donc lui, c'est en 48-49, on est vraiment à la fin de cette période de l'épuration des grands procès des traîtres.
Ouais. Voilà, donc un destin dans
juste une précision, c'est que cet abbé sera aussi en partie coincé en 45 grâce aux renseignements fournis par Virginia Hall, parce que pendant toute la guerre, cette affaire l'a turlupinée, et en 45 elle écrit un rapport extrêmement circonstancié en disant « Je suis maintenant certaine que c'est lui qui a trahi le réseau, etc. » Et donc, son rapport à elle, donc elle aura une espèce de vengeance, si on peut dire, où justice sera faite.
Oui, parce qu'on va comparer, évidemment, le juge d'instruction va comparer ce que lui dit ce personnage et ce que les rapports que la DST possède, les doubles de rapports, disent, et il est évidemment confondu.
Alors, il va même très loin, parce
que... sûr que c'est pas une erreur judiciaire.
Quand il est arrêté, il propose même ses services à l'espionnage, d'abord américain, et puis à la DST française, en disant, je connais beaucoup d'Allemands, si vous voulez, je peux vous les faire arrêter.
Jusqu'au bout. Voilà. Alors, on va faire une nouvelle pause et on va se retrouver tout de suite après pour vous... on pourra pas tout vous dire aujourd'hui sur Virginia Hall, mais il faut lire le livre, quoi, qui est magnifique et qui est fourmi de scènes qui semblent sorties d'un roman d'aventure. C'est un roman d'aventure. Et on va vous raconter comment... dans un deuxième temps, Virginia Hall va revenir en France et ce qu'elle aura fait au grand bénéfice de la résistance française. Ce sont des états de service qui ont été reconnus officiellement par la France, par l'Angleterre, par évidemment le gouvernement des États-Unis, et ça on en reparlera également.
Jusqu'à 15h sur Europe 1, Café Crime avec Jacques Pradel.
Et Vincent Nouzy qui a raconté l'histoire de Virginia Hall aux éditions Fayard dans un livre qui s'intitule L'espionne, Virginia Hall, une américaine dans la guerre. Alors, laissons aux oubliettes l'abbé agent secret.
L'abject abbé.
Et elle va finir fin 43 par rentrer en Angleterre. Hein. Il fallait bien que... Alors c'est cet épisode-là où elle va... le seul moyen de passage, c'est de trouver des passeurs. Elle va jusqu'à Perpignan. Elle va même, beau geste, payer le passage de deux résistants, quoi, qui n'ont pas d'argent pour partir. Mais elle a beaucoup d'argent parce que les services secrets lui donnent de l'argent pour alimenter la caisse des réseaux de résistance, donc elle se sert de cet argent. Elle arrive, elle est incarcérée quelques semaines, je crois, en Espagne.
Oui, elle est arrêtée par la police de Franco, quand même. Voilà, donc elle passe un petit moment dans les prisons.
Voilà. Ça, c'est incroyable, parce qu'elle fait, je n'ai pas calculé les kilomètres, quoi, mais elle traverse à pied avec sa prothèse.
Ça dure 3 jours, la traversée des Pyrénées. Alors, évidemment, on est fin novembre, donc c'est quand même le temps n'est pas très bon. Ouais, la nourriture non plus n'est pas forcément très fameuse, donc... elle va être incarcérée, donc en prison, en Figueras, les conditions sont épouvantables, et elle va trouver là une prostituée espagnole qui doit sortir de la prison et qui va porter un message à l'ambassade américaine à Barcelone.
Pour les prévenir.
Écoutez, il y a une américaine là qui est en taule, il faudrait peut-être tenter de la faire sortir. Donc elle réussit, comme ça, à pouvoir sortir de prison. Elle s'en va au Portugal, puisque c'était au Portugal qu'on prenait des bateaux ou des avions pour rejoindre Londres. Et puis là, elle est complètement grillé en France, parce que le fameux abbé a cramoisi son réseau. Tout le monde est arrêté, torturé, certains sont exécutés, déportés, etc.
Elle est brûlée. Elle va à Baker Street, on l'a pas dit, mais le siège du SOE, c'est Baker Street, c'est la rue où habite Sherlock Holmes dans les romans.
Dans les romans, absolument.
Sherlock Holmes, non, c'est pas Sherlock Holmes qui habite Baker Street, c'est le héros. Hein.
Absolument.
Alors, c'est pas Conan Doyle qui habite là, mais c'est Sherlock Holmes dans les romans. Merci Serge. Merci Muriel.
Bon. J'ai rien dit, moi.
Alors, elle fonce au siège et elle dit, maintenant, il faut me former à l'opération radio parce qu'on va avoir besoin, je veux retourner en France, ça va être la fin de l'histoire.
Alors là,
veux y participer.
Son patron lui dit, son supérieur lui dit, mais vous êtes folle, c'est impossible. Si vous y allez, vous allez être repéré et vous allez faire tomber d'autres réseaux. Donc, il est interdit, donc on la renvoie en Espagne quelques mois, et elle revient à Londres fin 43. Elle sait que le débarquement va se préparer, elle veut en être quelque part. Alors, puisque personne ne veut, du côté britannique, l'envoyer en France, elle dit, je suis américaine, je vais aller voir les services secrets américains.
Alors la CIA n'existe pas, ça s'appelle l'OSS à l'époque. Voilà. Il y a évidemment une sorte de commandement commun pour préparer le débarquement, etc. Et elle va donc, alors c'est là où elle quitte Portsmouth en mars 1943. 1944, donc dans ce bateau rapide.
Elle fait partie de ces quelques dizaines d'agents, d'agents secrets, qui sont envoyés avant le débarquement, en quelque sorte, pour préparer le terrain. Ouais,
pour téléguider les réseaux de résistance,
et surtout,
faire sauter les trains,
pour
les
éviter
ponts,
que, par exemple, l'armée allemande ne reflue trop vite vers la Normandie. Donc, il s'agit de geler les positions, donc d'animer les maquis, par exemple, dans le centre de la France. Voilà. Et c'est là qu'on va l'envoyer en lui disant une mission importante en mars, avril, mai, juin, juillet 44. Elle va trouver plusieurs endroits. D'abord dans la Nièvre et la Creuse. Elle va aider les parachutages.
Alors justement, puis, on vient de recevoir un courriel là qui est signé Laurence. Et Laurence dit ceci, je la lis. « J'avais entendu des résistants du plateau Vivarais-Lignon entre Ardèche et Haute-Loire près du Chambon sur Lignon parler d'une dame avec une jambe de bois, membre de la résistance, qui faisait beaucoup de vélo pour se déplacer dans la montagne. » Il me semble qu'on l'appelait Virginia. Pourrait-elle être Virginia Hall ?
Réponse, oui, c'est bien elle, puisque en juillet 44, effectivement, elle rejoint le Chambon-sur-Lignon, qui est très connu pour être, vous savez, avoir été nommé parmi les justes pour avoir hébergé et sauvé des milliers d'enfants juifs sur ce plateau, où il y avait un énorme réseau de pasteurs, de centres de vacances, etc. Et donc, c'est un plateau qui est assez inaccessible, et donc, qui quelque part protégée, et les gens, tout le réseau des gens sur le plateau ont protégé. Et donc, elle arrive là, à ce moment-là, au moment où il y a le débarquement 6 juin 44, elle arrive en juillet sur ce plateau. Et il s'agit d'organiser les maquis et la libération de l'ensemble de la région Haute-Loire, Loire.
Voilà. Et les maquis attendent que...
Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de renseignements. Ouais. Ils sont un peu perdus. Alors, ils font des coups de main très importants. Vous savez, on a l'opération du Vercors qui s'annulera mal.
Le Mont Boucher.
Il y a le Mont Boucher qui se passe dans la région. Ouais. Et donc, elle arrive. Un beau matin, en train, elle dit, moi, j'ai de l'argent, j'ai la radio, je peux vous mettre en contact avec Londres. Évidemment, les maquisards sont absolument enchantés. Ils voient cette femme, ils se demandent, mais d'où sort-elle? Ils la surnomment la Madone.
Voilà. Et alors, la Madone, en fait, c'est Diane, dans cette nouvelle partie de sa vie.
Voilà, son nom de code, c'est Diane, c'est Diane. Eux la surnomment la Madone, parce que tout ce qui arrive du ciel, grâce à elle, est absolument formidable. Les armes, les mitrailleuses, la nourriture.
On découvre, au passage, on va pas en parler longtemps, mais je le dis, il faut le pointer, c'est que ni les Américains ni les Anglais n'enverront jamais d'armes lourdes dont les résistants ont besoin parce que ils se méfient en fait des communistes. Ils ne veulent pas. Ils veulent contrôler les mouvements de révolte en France.
Voilà, ils voulaient éviter que des armes lourdes tombent entre les mains des maquisards des FTP communistes. Et donc il y a une bataille quand même un petit peu sanglante. Le Vercors est un peu victime de ça.
Voilà. Alors là, bon, elle s'illustre et c'est ça qui sera reconnu après la guerre, bien sûr. Elle aura la plus haute distinction, je crois, civile, aux États-Unis. La DSC,
Distinguished Service Cross,
qui a failli lui être remis par le président des États-Unis lui-même, mais elle a refusé.
Moi, je veux pas faire de pub pour moi. Donc, si j'apparais, je ne pourrais plus faire d'espionnage.
Et oui, parce qu'elle comptait bien continuer. Alors, bon, là, à 14h56, en général, je souffre intensément parce que l'émission est presque terminée. Alors, disons un mot sur. Elle va assister à la libération de Paris. Elle va être là jusqu'au bout elle va quitter Paris à quel moment, alors
Elle quitte à la fin de 44 et on la prépare à ce moment-là pour une mission, la mission ultime.
Ah oui, en Autriche.
En Autriche, où doit peut-être s'organiser une espèce de bastion nazi des derniers du côté d'Innsbruck, etc.
Elle est volontaire.
Et elle est volontaire pour pénétrer dans cette région et organiser la résistance dans cette région. Cette opération, finalement, est annulée en avril 45 et en mai 45 parce que la guerre est terminée qu'en envahissant l'Autriche et l'Allemagne, eh bien, les armées ont découvert qu'il n'y avait pas de réduit de bastion nazi du côté d'Innsbruck.
Et alors, bon, pardon d'aller si vite, mais je vous renvoie au livre. Ensuite, 1951, elle va être officiellement intégrée à la CIA.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, quand elle revient à Washington, elle ne sait pas trop quoi faire. Elle ne sait faire que de l'espionnage et écrire des articles. Alors, elle a beaucoup d'amis parmi les journalistes, mais elle va finalement choisir une carrière au sein de la CIA qui se crée en 47. Ouais. D'abord, de manière un petit peu contractuelle, et puis elle est embauchée en 51. Et elle ne dit rien. Elle est malheureusement un peu discriminée comme une femme et comme une handicapée. À l'époque, la CIA, il n'y a que des hommes qui dirigent et elle va avoir une carrière absolument brimée à la CIA jusqu'en 66 où elle prend sa retraite.
Ouais, elle va s'occuper un peu de la formation des agents secrets. Elle va essayer de de partager son expérience.
Mais toute son expérience, toute son immense expérience de terrain sera un peu perdue.
Voilà, dommage, elle va mourir en 1982. On ne racontera pas comment elle a rencontré son mari, qui était un Français dont la famille avait émigré aux États-Unis, donc un Franco-Américain, qui est devenu son mari après la guerre. Ni lui, ni elle, et pourtant lui a participé avec elle à des faits d'armes très importants. Et puis, je crois qu'il y a eu, donc c'était en 1986, à quelle époque, ou en 92, cette cérémonie qui s'est tenue.
Ah non, c'est très récent, parce que c'était en 2006 seulement.
2006,
où il y a eu
à New York,
enfin l'ambassade de France, à Washington. Une cérémonie pour rendre hommage à cette femme. J'y participais parce que je voulais voir, évidemment.
Ah oui, bien sûr.
Et j'avais un petit peu contribué à donner quelques renseignements sur cette femme qui n'avait jamais rien dit.
Voilà. Mais je crois qu'on lui devait, maintenant qu'elle a disparu, on lui devait de rappeler son souvenir, quoi, aux autres.
Je vous remercie. Très, très grande héroïne.
Je vous remercie beaucoup. On me dit, Guillaume Vasseau me dit dans les oreilles que le Standard est bourré de coups de fil d'auditeurs qui veulent qu'on redise une fois le nom de ce prêtre agent double.
Ah, alors, le méchant de l'histoire s'appelle l'abbé Alesch, A-L-E-S-C-H, qui a été donc exécuté comme pour traîtrise en 49.
Voilà, je pense que l'internet va chauffer et puis j'espère que vous lirez toute l'intégralité
Surtout,
de cette
vie. Lire le livre.
Bah oui, lisez le livre. L'espionne Virginia Hall, une américaine dans la guerre, signé Vincent Nouzi, paru aux éditions Fayard. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bonjour Faustine.
Bonjour Jacques.
Qui ne vient pas là clandestinement parce que au vu et au sud tout le monde va faire une émission dans...
Voilà, c'est légitime. A priori,
dans moins de 5 minutes.
Là. Quel est le plus gros achat compulsif que vous ayez fait, Jacques Pradel? Une maison, un château, un avion?
Non, je suis d'une banalité stupéfiante de ce côté-là.
Un gros pull, quoi.
Ouais.
Bon, d'accord. Ouais. Alors,
allons-y pour le gros pull.
Pour le gros pull. Ça va vous revenir d'ici.
Non, je suis pas compulsif la carte bleue, non.
Bon, alors on va parler de ces acheteurs compulsifs, des toxicomanes de la dépense. La fièvre acheteuse est une vraie addiction, comme la drogue ou l'alcool. Voilà. Elle peut se traiter de la même manière. On va donner donc la parole aujourd'hui à ces acheteurs compulsifs et à leur famille. On va se demander tous ensemble si on peut guérir de la fièvre acheteuse. Il faut prendre cette maladie de façon extrêmement sérieuse. Restez avec nous donc et vous pouvez nous appeler au 01 42 32 15 15. Pas du tout concentré, Jacques. À la fin d'émission, il n'y a qu'une envie, c'est d'aller prendre un café.
J'ai hâte d'entendre votre billet d'humeur en tout cas.
Bon, oh, vous allez voir.
Absolument. À tout à l'heure, Faustine, et à demain.
Oui, à demain. À demain, Jacques.
Retrouvez tout Europe 1 sur Europe 1.fr.